dissonance.
Trois fois par mois, pendant une heure, nous ferons ensemble un pas de côté pour prendre le temps d'écouter des voix dissonantes et de découvrir des parcours de vie qui portent un éclairage différent sur nos vies, nos luttes et nos espoirs.
Dissonance.
Joseph Fula sur Radio Centrafrique.
Ce qui m'a poussé à commencer cette réflexion, c'est que j'ai constaté que l'enseignement de la musique se faisait avec des professeurs très compétents, mais en parallèle des enseignements scolaires et avec peu de réflexion collaborative. Au-delà de la dimension d'éveil et de l'expression propre à la musique, j'ai la conviction que l'apprentissage d'un instrument, et plus particulièrement de la guitare, fait appel et développe des capacités que l'on peut élargir aux apprentissages scolaires. La méthode Freinet me semble un bon support pour cette réflexion et elle s'appuie sur le jeu-travail et le tâtonnement expérimental.
Bonjour chers auditeurs, que vous soyez jeunes, que vous soyez ados, que vous soyez parents, que vous soyez musiciens, que vous soyez néophytes, que vous soyez pédagogues, cette émission est pour vous.
Je suis guitariste classique. J'aurais pu former mes élèves qu'à la guitare classique. Mais je sais que, arrivé à l'adolescence, vont arriver une foule d'informations de hard rock, de ceci, de cela, et trop de guitaristes classiques ont été absolument démoralisés à pouvoir travailler des années, voyant des gens qui faisaient trois plans de hard rock et qui en avaient l'impression que c'était la terre qui s'arrêtait. Je prépare mes élèves à l'adolescence pour leur permettre de pouvoir répondre à toutes les sollicitations guitaristiques qui leur seront faites. Je ne peux pas le faire quand ils ont 8 ans, mais je peux le faire quand ils ont 15. Et je crois qu'une pédagogie active doit non pas s'adapter à la société, mais préparer à ce que la société le réserve en bien et en moins bien, mais aussi être capable de s'épanouir en tant qu'adulte.
Il est là, assis dans le studio, sa guitare sur les genoux, son pied à l'étrier, les doigts de la main gauche qui fartent les cordes et ceux de la main droite prêts à surfer sur les lignes mélodiques. Vous le croisez souvent dans les rues de Saint-Afrique, sa tête coiffée de son panache blanc, caché derrière ses lunettes, portant souvent sur son dos sa guitare, allant de cours en leçon. D'autres le croisent dans des festivals en France, soit parce qu'il les organise, soit parce qu'il y joue. Il se nomme Yves Elias. Sa passion, c'est plus que la musique, c'est la transmission. Son désir, rendre accessible à tous l'apprentissage d'un instrument. Sa réflexion, elle porte sur l'incroyable aller-retour qu'il peut se faire entre l'apprentissage d'un instrument et l'apprentissage des savoirs, ou plus largement l'apprentissage de la vie. Et cet aller-retour, la ficelle qui relie musique et apprentissage, c'est par le biais de ce que certains nomment la pédagogie freinée, d'autres la pédagogie coopérative. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, Dissonance plonge tête baissée dans la musique, le jeu, le travail et le tâtonnement. Accrochez-vous, on y va.
Ceci est une guitare. Je ne joue pas de la guitare classique, je ne joue pas du flamenco, je joue de la guitare sommaire. Je suis professeur de guitare sommaire. Je ne suis pas ici pour vous distraire, mais pour instruire. Maintenant, s'il y en a que s'amusent de rire, je peux aussi distraire. Je peux instruire en 10-13 ans, 13 ans et demi maximum. Après, je prends ma retraite. Petit cours de guitare sommaire. Une guitare est un instrument en forme de guitare qui comporte 6 cordes. Si l'on partage la guitare en deux par le milieu, ce qui n'est pas à conseiller, on obtient 2 moitiés de guitare. Et 3 cordes d'un côté, 3 cordes de l'autre. Ces 3 cordes du haut s'appellent par conséquent les basses. En guitare classique, en guitare sommaire, on ne les appelle pas, on les ignore. La grosse difficulté de la guitare sommaire est d'éviter de toucher à ces cordes du haut qu'on appelle les basses. Pour ce, ne tripotons pas la guitare avec tous les doigts. Servons-nous uniquement du pouce. Comme son nom l'indique, pouce, ça ne compte pas. Pouce, c'est pour rire. Ha ha, ha ha. Assérie, première leçon. Les 2 accords. En guitare sommaire, nous avons 2 accords. C'est beaucoup, ce n'est pas trop. Pour effectuer ces 2 accords, nous avons une main gauche avec un pouce qui ne compte pas, haha, et un index. Avec l'index, nous viendrons appuyer sur les cordes à proximité, c'est-à-dire pas trop loin, soit sur cette corde-ci que nous appellerons donc la corde-ci, soit sur cette corde-là que nous appellerons donc la corde-mi. Et nous obtiendrons les deux accords suivants, bling et blang. C'est très facile. Bling, c'est facile, mais il ne faut pas toucher les cordes à côté. Bling et blang, comme j'ai montré tout à l'heure. Exercice pour la prochaine fois, sur un cahier propre, 10 lignes de bling, 10 lignes de blang.
Dissonance
avec
Yves Elias
sur Radio Centrafrique.
Donc moi je suis au départ guitariste classique, de formation classique, avec un parcours tout à fait traditionnel. D'abord j'ai enseigné dans tous les milieux, des centres sociaux très très modestes à Paris, jusqu'à des écoles de musique comme l'École nationale de l'Aveyron. Et en fait, je me suis très vite rendu compte que on enseignait de manière très précise et très organisée la musique, avec des gens très compétents, très qualifiés, mais que c'était en plus, et qu'il y avait une espèce d'empilement des savoirs qui pouvait parfois entraîner une certaine surcharge de travail pour les enfants. C'était toujours du travail en plus, et pas du travail autrement ou à côté. La discipline qui effectivement m'est apparue pour relier un peu tout ça, ça a été les sciences de l'éducation, pour lesquelles j'ai fait un travail à la fac du Mirail, une validation d'acquis, et de fil en aiguille est venu se cristalliser cet intérêt pour la méthode Freinet, qui est une méthode qui est apparue au début du XXe siècle dans le grand mouvement des méthodes de pédagogie d'éducation nouvelle, qui était un mouvement mondial, et qui m'intéressait parce qu'elle articulait une pratique quotidienne de terrain avec une mise à distance réflexive. Donc, ça c'est pas nouveau. Par contre, ce qui était plus particulier, c'est que mon instrument, la guitare, est un instrument qui offre beaucoup de possibilités pour mettre en pratique cette méthode Freinet. Lui s'articulait autour de l'imprimerie, et la guitare, qui est un instrument très complexe, me paraissait un bon outil. Pas un, mais plusieurs guitares, plusieurs styles, avec des niveaux de notation très différents, et ce qui fait qu'on peut s'exprimer de différentes façons. Il y a l'ambitus, la guitare qui n'est absolument pas écrite, et la guitare qui est très écrite. Et entre les deux, il y a des niveaux intermédiaires. Déjà, il faut apprendre aux enfants à s'exprimer avec ce qu'ils savent faire. Et si possible, rebondir sur leurs capacités pour ensuite aborder des choses qu'ils n'auraient pas peut-être compris si on les avait fait de manière verticale. Notamment, je détaillerai une façon d'aborder le solfège qui passe par les doigts et non pas par une reconnaissance visuelle abstraite qu'on voit trop souvent dans les conservatoires.
Dissonance
avec
Yves Elias
sur Radio Centrafrique.
Santana, Narciso Yepes, Paco de Lucía, Django Reinhardt, en ce moment Rodrigo et Gabriela, puis après Maurice Jarre, on va retrouver Yves Elias qui va nous parler des apports de la musique dans les apprentissages, comme notamment la lecture et le calcul, et puis aussi faire un zoom sur la méthode Freinet. Et deux notions importantes qu'il applique à la musique, c'est le jeu, J-E-U, travail, et le tâtonnement, expérimentale, mais accordons-nous d'abord une petite respiration avec Henri Tachant.
Ce soir c'est fête, ce soir j'ai invité Mozart, Beethoven, Schubert et Rossini. Autour d'un verre, au chaud dans ma chambre, on va se jouer une petite mélodie. Et sur les notes, on oubliera le monde qui n'en finit pas de tourner. De marches funèbres et de tombeaux en tombe, on oubliera l'humanité. Mozart se lève, me crie par Jupiter, y'a que chez toi que je me sens moins poudré. Le vin pétille dans les yeux de Schubert, qui se fredonne l'inachevé. Ce soir c'est fête, ce soir j'y invite Mozart, Beethoven, Schubert et Rossini. Autour d'un verre, au chaud dans ma chambre, on va se jouer une petite symphonie. Et sur les notes, on oubliera les femmes qui n'en finissent pas de tourner. De valses en Vienne et d'éventails en drame, on oubliera même leur beauté. Beethoven sourit en pensant à Élise qui ne répondait pas au courrier. Et Rossini m'apprend que c'est Miramis, c'était la puta du quartier. Ce soir c'est fête, ce soir j'invite Mozart, Beethoven, Schubert et Rossini. Autour d'un verre, au chaud dans ma chambre, on va se jouer un petit Don Giovanni. Et sur les notes, on oubliera la gloire qui n'en finit pas de tourner. À la roulette des succès illusoires, la gloire micro-sionisée. Rossini gueule, mon barbier de Séville, par Toscanini dirigé. Mais c'est une bombe, mais c'est une torpille, mais c'est une tube, c'est un succès. Ce soir c'est fête, ce soir j'ai invité Mozart, Beethoven, Schubert et Rossini. Autour d'un verre, au chaud dans ma chambre, on va se jouer un petit quintet en mi. Et sur les notes, on oubliera la mort qui n'en finit pas de tourner. De l'ouverture jusqu'au dernier point d'orgue, on oubliera l'éternité. Demain il y aura Mahler, Brahms et Schumann pour faire plus long que la table. Il y a trop longtemps que la noblesse mélomane se les était colonisés. Ce soir c'est fête, ce soir j'ai invité Mozart, Beethoven, Schubert et Rossini. Autour du dernier verre dans ma chambre, on va se jouer la petite musique de nuit.
Alors déjà, une précaution que je prends.
Yves Elias.
Ne pas considérer que ma réflexion est unique et qu'avant rien ne s'est fait et qu'après rien ne se fera. Freinet lui-même n'avait aucune arrogance intellectuelle, donc je sais que d'autres, j'espère que d'autres personnes en France, avec d'autres moyens, pas nécessairement la méthode Freinet, réfléchissent à ces questions. Comment l'apprentissage de la musique et du solfège, qui est le croque-mitaine de la musique, peut-il aider dans les apprentissages scolaires? Le premier travail que je fais, c'est de déterminer le niveau de reconnaissance visuelle. Lire une partition, on reconnaît des signes. Lire un texte, on reconnaît des signes. Et on s'aperçoit, des fois, que des difficultés en lecture viennent d'une mauvaise... soit d'un trouble visuel, donc là c'est purement un problème ophtalmologique, mais aussi d'une mauvaise reconnaissance visuelle. On peut se confronter à une dimension horizontale, c'est-à-dire en lisant une mélodie, verticale en lisant des accords. Et c'est vrai que déjà on voit très bien les capacités de l'enfant à pouvoir s'adapter à des choses qui sont très changeantes. Sauf que la musique, on doit lire, et surtout la guitare, parfois trois choses en même temps, ce qui est un niveau un peu sophistiqué. Donc ce premier travail de reconnaissance visuelle est purement une observation. Ensuite, on va quand même à quelque chose de plus précis. Reconnaître, voir ce qui se passe est une chose, mais ensuite il y a une reconnaissance qui est plus analytique. Analytique, c'est pas de dire c'est un accord de septième diminué. Analytique, c'est de voir où est l'intérêt. C'est-à-dire de voir où est l'essentiel du secondaire. Mais le secondaire n'est pas subalterne. Je vais donner un tout petit exemple. Qu'est-ce qu'on a quand on voit la partition ? On a un aigu qui est toujours la même chose et une basse qui change. La première, déjà, reconnaissance visuelle, voir ce qui se passe. Deuxième reconnaissance visuelle analytique, voir ce qu'on va déchiffrer en premier. Et mes élèves, je leur dis, qu'est-ce qui bouge ? Ils vont me dire la basse. Qu'est-ce que tu vas déchiffrer en premier ? La basse. Quand on a compris quelque chose, il faut être capable de le transposer. Quand je fais, par exemple, un accord, je reprends ma guitare, voilà un accord. Il en existe 2400. Beaucoup trop de profs les vont apprendre comme les verbes irréguliers en anglais, ce qui est à mon avis dommage. Sur les 2400, il faudrait en connaître 300, ce qui est faisable. Quand on a compris quelque chose, ce que je vais essayer de voir, c'est la capacité à l'élève de dupliquer ce qu'il a appris. C'est-à-dire, si on connaît la conjugaison du verbe « marcher », on connaît la conjugaison du verbe « chanter », c'est pas la peine de l'apprendre. Si je connais cet accord-là, je dois pouvoir déterminer celui-ci. Le terme musical, c'est « transposer ». Moi, je dis « dupliquer ». Bon, donc ça, c'est aussi quelque chose que la musique apprend. Je dis souvent à mes élèves, il faut mieux connaître 10 règles qui permettent de répondre à 60 questions qu'apprendre les 60 réponses par cœur. Voilà. Et ça, en musique, on est pratiquement condamné à ça parce qu'il y a une telle complexité que empiler les savoirs nous mène dans l'impasse. Et pour inférer ça au traitement des accords, il faut mieux connaître la composition d'un accord que sa position sur la guitare. Parce que si on a un trou de mémoire, on retrouvera l'accord. Si on a un trou de mémoire et qu'on ne connaît que sa position visuelle, on ne le retrouvera pas.
Dissonance
avec
Yves Elias
sur Radio Centrafrique.
Maintenant, on rentre dans les choses plus précises de l'aspect global et de l'aspect syllabique. Je n'entrerai pas dans cette querelle qui agite beaucoup le milieu scolaire, tout simplement parce qu'en musique, le global et le syllabique ne se font pas la guerre, ils se complètent. Il y a parfois des morceaux de musique qu'il faut jouer de manière syllabique, et penser, et mémoriser, et déchiffrer de manière syllabique, et parfois de manière globale. Voilà plusieurs petits exemples. Le premier morceau est une sarabande de Bach tirée de la troisième suite pour luth ou la cinquième suite pour violoncelle. Et elle illustre l'approche syllabique de la musique que l'on pourrait aussi adapter à la lecture où chaque note est égrenée une par une, ce qui ne se fait pas toujours chez Jean-Sébastien Bach.
Le deuxième morceau est une approche toute différente, presque contraire. C'est un enchaînement d'accords de bossa nova, d'un thème de Jobim à haute sensitive, où là, on déchiffre la musique, non pas note par note, j'ai envie de dire lettre par lettre, mais d'un bloc. C'est une approche globale de la musique, et c'est une autre façon de faire, et un autre déchiffrage, une autre compétence que l'on doit acquérir.
Dissonance
avec
Yves Elias
sur Radio Sainte-Afrique.
La situation se complique un peu, c'est qu'on a parfois un mélange des deux approches que je joue dans le prélude qui suit, qui est un prélude de Chopin, dont on dit que c'est un des ancêtres de la bossa nova, parce que c'est pratiquement le même thème, simplement au-dessus des accords joués dans leur globalité. Il y a une mélodie jouée à la basse, qui est la mélodie que l'on reconnaît. Donc là, on a une synthèse et un alliage d'une approche globale et syllabique. Thank you. troisième morceau amplifie cette perspective où on a des accords dans leur globalité, mais qui sont arpégés note par note, j'ai envie de dire lettre par lettre, et en même temps un thème complètement autonome, très syllabique, à la basse.
Dissonance
sur Radio Centrafrique.
Parlons de pédagogie Freinet. Donc il y a deux aspects très importants. C'est le jeu-travail et le tâtonnement expérimental. Ce sont presque des notions un petit peu provocatrices et qui servent un petit peu de cheval de bataille aux détracteurs de ces pédagogies actives. Dont c'est le fonds de commerce et qui parfois n'ont même pas lu ce qu'ils dénoncent. Et le jeu-travail, pourquoi cette expression qui semble antinomique? Quand on voit un enfant jouer, il fait preuve de quoi? Il est concentré, il est assidu, il se construit une expérience pour que ça marche, il y prend du plaisir mais pas immédiat. Il peut revenir en arrière parce que ça n'a pas marché, et puis il peut aller à un jeu plus sophistiqué. Voilà des qualités que l'on demande dans le travail, et je ne vois pas pourquoi on opposerait systématiquement cette idée de jeu-travail. Je trouve que aussi l'une de mes préoccupations, c'est plutôt que d'avoir des... forme d'esprit complètement séparée, voire antagoniste, de mettre des reliances entre différentes approches. Donc le jeu-travail me paraît être justement une notion relativement riche. Alors, qu'est-ce qu'on vient faire dans la musique? Et qu'est-ce que la musique vient faire dans le jeu-travail? Déjà, travaillons sur la spontanéité de l'enfant. Soit faire des choses, même désorganisées, soit s'exprimer, soit repiquer, ce que l'on dit, des choses déjà entendues, et plein de petites, comme ça, une espèce de génération spontanée d'activités musicales désorganisées. Le propre, c'est d'organiser ça. Souvent, ce côté spontané atteint ses limites quand la musique se complexifie, par exemple. Le solfège, bien enseigné, doit permettre de mieux organiser le jeu. Si des enfants veulent repiquer un morceau, ils peuvent le faire d'oreille. Ça développe les réactivités, ça développe les réflexes, mais ça prend un temps fou. Je ne compte plus les répétitions de groupes de jeunes qui finissent en, fiasco parce qu'ils ont passé une heure à repiquer un morceau, alors qu'avec une méthode que j'apprends, ils le font en 3 minutes. Mais là, il faut un peu de savoir solfégique. Je ne m'étendrai pas là-dessus, c'est-à-dire reconnaître les accords, reconnaître la mélodie et l'improvisation grâce à une espèce d'algorithme relativement efficace qui permet ensuite de s'exprimer. Voilà exactement dans quelle mesure le travail peut amplifier le jeu. Et ça, c'est vrai que c'est une façon un petit peu de recoller le solfège avec l'expression des jeunes. Moi, j'ai beaucoup de jeunes ados, qu'on pourrait croire très indisciplinés, qui me font une demande de solfège, tout simplement. Et qui me demandent des choses qui, paradoxalement, ennuient tous les élèves qu'on leur fait faire au conservatoire. Voilà. Par exemple, quelque chose d'aride, la tierce mineure descendante. Je ne m'étalerai pas là-dessus, mais c'est quelque chose, une question qui ne sert qu'à une seule chose dans les conservatoires, c'est répondre à l'examen. Moi, dans ma méthode, de connaître cette notion permet de trouver très vite une gamme d'improvisation pour pouvoir impressionner sur les Beatles, Francis Cabrel ou Dire Straits. Voilà. Et on joue, mais en se servant du travail. Voilà un petit peu. C'est vraiment un échange entre, effectivement, le jeu et le travail. J'insiste beaucoup sur ce dialogue. Quelques exemples. Partons de la notion de travail. Trouver les notes sur le manche, savoir ce que je fais. Parce qu'à la guitare, c'est pas au piano, c'est déjà compliqué. Ça, c'est du travail. Le jeu, ce serait de ensuite, puisque je sais ce que je fais, dire ou chanter les notes que je fais, même si je fais une mélodie. D'inventer une mélodie en sachant ce que je fais. Identifier. Ça, ce serait plutôt du jeu. Mais où ça devient intéressant, c'est que ensuite, puisque je sais ce que je fais, être capable de le lire. Mais ce n'est pas du tout en lisant une note et en le faisant sur la guitare, mais c'est en faisant la note et en la regardant sur la partition. Cette façon d'apprendre le solfège, comme s'il restait une trace, et non pas une preuve dans ce qu'ils font. Il reste une trace qu'ils ont créée eux-mêmes. Et parfois, un enfant qui a une bonne autonomie de sa main gauche, je lui donne une toute petite règle, et il peut ensuite trouver ses notes sans trop chercher, ça tombe sous les doigts, ses doigts décident, et ensuite sa reconnaissance visuelle identifie la note qu'il vient de faire. C'est une des... Attention, tous les enfants n'ont pas de problème avec le solfège. C'est aussi peut-être un des avatars des pédagogies actives, c'est parfois de trouver des stratégies complexes pour des enfants qui n'en demandent pas. Voilà. Donc ça, il y a des enfants pour... Mais il y a des enfants pour qui il faut une stratégie pour les mettre au solfège. Et cette façon de faire est l'une des meilleures que j'ai trouvées. Et ils s'aperçoivent au bout de 3 ans qu'ils savent lire les notes sans avoir fait une seule cours de solfège traditionnel. Voilà un petit peu. N'oublions pas que l'un des plus grands géants d'histoire de la musique, Schubert, a commencé à prendre des cours de musique 3 mois avant sa mort. Et que Mozart, qui est quand même dans le genre miracle aussi, a découvert la musique de Bach très tard. Et ça lui a coûté beaucoup d'énergie de se mettre à ces histoires de fugues, de choses comme ça. J'ai envie de dire, il est retourné à l'école, à sa façon. Donc c'est pas quelque chose qui est à sens unique.
Elle a des pinceaux dans les cheveux, elle est bourrifage étudiée, ça fait comme un chignon foireux, comme semblant d'être négligé. Elle porte des vieilles sapes trouées, mais des robes sur ses pantalons, des t-shirts sur ses cols roulés, peut-être même des strings sur ses caleçons. Elle est étudiante en lettres, ouais mais elle hésitait avec psycho. Et pour ce qui est dû paraître, elle a pas dit son dernier mot. Elle va à la fac en vélo, un capa de vitesse et qui queen. Un vieux modèle très rétro qui tue les fesses et troue les jeans. Mais quand elle pédale, quelle allure! On dirait la reine d'Angleterre avec ses fripes de haute couture et sa besace en bandoulière. Elle est étudiante en lettres, mais elle a failli faire philosophie. Et pour ce qui est dû paraître, elle élabore des théories. Elle a un studio sous les toits, il y règne un joyeux bordel. Pour le loyer, merci papa, il manquerait juste un lave-vaisselle. Et puis une machine pour ses fringues. Ses vieux habitent l'immeuble d'en face, mais y a pas l'ascenseur, ça la rend dingue. Elle préfère baigner dans sa crasse, elle est étudiante en lettres. Parce qu'elle a manqué les beaux-arts. Et pour ce qui est dû paraître, elle y consacre son mémoire. chez elle, bien sûr, y a des bougeoirs, des photos accrochées au mur, y a des tentures, des encensoirs, une vue plongeante sur ses lectures, bien sûr. Y a une table basse sur laquelle gisent des culs de joint, des vieux verres tachés de vinasse, et la guitare de son copain qui est étudiant en lettres. Parce qu'il ne trouvait pas sa voix, le pauvre garçon est pour ce qui est dû paraître. Lui peut prétendre au doctorat. Près de la caisse de son chat qui bave, toute sa discothèque se répand tout plein d'heures de musique suave, de la liqueur pour les tympans sous les disques de chansons fanfares. Un best-of de Brassens s'emmerde entre le bruit de ses braillards et le dernier Vincent Delerme. Elle est étudiante en lettres. On peut pas lui en vouloir. Et pour ce qui est dû paraître, il faut le voir pour le croire. Elle a mûri ces derniers temps et décidé de s'assumer. Elle fait quelques gardes d'enfants quand elle est pas trop débordée, car ses soirées sont surchargées entre le yoga, les devoirs, les cours de théâtre, le ciné, le tai chi, les canons, les copines à voir. Elle est étudiante en lettres. C'est moins compliqué qu'hypocagne. Et pour ce qui est dû paraître, c'est moins compliqué qu'hypocagne. Mais surtout chez cette femme pirate qui rôde, qui fume, qui boit des bières, ce qui depuis toujours m'épate, ce qui cloue ma langue de vipère. L'incroyable chez cette fille, cette victime de la mode bohème, c'est qu'elle est super gentille et que comme tous mes potes, je l'aime. Elle est étudiante en lettres. Moi je n'écris que des chansons, mais pour ce qui est dû paraître, elle me donnera des leçons.
Dissonance
avec
Yves Elias
sur Radio Sainte-Afrique.
Donc en fait, tu mets entre les mains d'un enfant un instrument qui est la guitare, il s'en sert, voilà. Il découvre, etc. Et ce n'est qu'après que quand il a la soif d'apprendre pour aller plus loin, qui va s'intéresser au fait que cette note correspond sur la guitare, correspond à un dessin sur une portée, et qui va s'intéresser au solfège.
Absolument.
Alors que jusqu'à maintenant, souvent on apprend dans les écoles de musique le solfège sur papier avant de pratiquer l'instrument.
Alors il y a deux abus qui m'énervent, ces deux discours. Un, le solfège ne sert à rien. Deux, il faut faire du solfège, il faut faire de la musique. C'est un peu plus compliqué que ça. Je prends un biais, puisqu'ils sont tous très informatiques maintenant, je prends un biais, le solfège, c'est la mémoire de la musique. Je lui dis, quand tu fais un exposé, qu'est-ce que tu fais? Il me dit, je le sauvegarde. Et bien, le solfège, c'est la sauvegarde de la musique. Mais je dis à mes élèves, tous les musiciens devraient être capables de lire ce qu'ils font, mais aussi de faire sans support écrit. C'est-à-dire ce qu'on appelle un peu globalement, et de manière un petit peu éhontée, l'improvisation. Et c'est vrai que c'est une notion qui maintenant semble réservée au jazz, ou exceptionnellement à l'improvisation à l'orgue. Mais dans les époques passées, l'improvisation faisait partie du cursus, comme l'harmonie et le contrepoint. Et Beethoven était parfois plus connu comme improvisateur que comme compositeur. Donc effectivement, le solfège ne doit pas être un carcan, mais être un aide. Parfois, on a besoin de solfège. Et parfois, on n'en a pas besoin. Il faut savoir simplement l'utiliser à bon escient. Je dis à mes élèves, sous le coup d'une boutade, le solfège est globalement toute la théorie. C'est un mode d'emploi. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un mode d'emploi? C'est quelque chose qu'on range et qu'on ne trouve jamais quand on la cherche. Et quand on le trouve, il est en chinois. Voilà, et bien, c'est tout à fait ça. Le solfège devrait être le mode d'emploi de la musique qu'on puisse utiliser à bon escient. Et c'est un peu ce dialogue, un petit peu, des méthodes et des pédagogies un peu actives de cette, effectivement, cet équilibre à trouver entre parfois des concepts, une méthode et aussi une spontanéité. Réconcilier l'esprit de simplicité, l'esprit de culture, si je puis dire un petit peu. Je reviens un petit peu en arrière de la. En amont, l'apprentissage de la musique et la reconnaissance visuelle, ça peut aussi, de manière moins évidente, se retrouver pour le calcul des nombres entiers, pour les choses simples. La musique, au niveau du rythme, on a des unités de mesure, et pour la numération, par exemple, les enfants se rendent compte que, par exemple, telle une ronde fait 4 noirs. Donc dans une heure, j'ai 4 demi-heures. J'ai 4 fois un quart d'heure, ou j'ai une ronde qui fait 2 blanches, j'ai 2 demi-heures. Et on procède par un système d'équivalence. Et je me suis rendu compte que pour associer des quantités, par exemple, la musique était un médium assez fort, parce que ce n'est pas quelque chose d'abstrait. Quand il voit qu'une ronde, ça peut être une noire, une blanche, une noire, non seulement il le voit sur la portée, mais il l'entend. Et il y a aussi, ça fait entrer la reconnaissance dans le temps, la reconnaissance dans l'espace. C'est un champ, je dois avouer que cette intervention n'a pas... C'est un champ d'investigation gigantesque, qui ne concerne pas que les enfants, je crois. Ce n'est pas un hasard si les sciences de l'éducation commencent à monter maintenant dans les systèmes de formation et du bilan de compétences. Donc voilà un petit peu aussi, on peut même au niveau, c'est l'objet de ma prochaine intervention, des divisions, une mesure de musique, c'est une division du temps. Et pour faire court, quand on est confronté à un problème rythmique, même au plus haut niveau, on fait ce qu'on appelle, on décompose la mesure. Et l'opération de calcul qui est la même chose, c'est réduire une fraction à un dénominateur commun. Voilà, je peux dire. Voilà des reliances que je peux faire, non pas pour faire dire qu'on a tout compris, mais faire peut-être une pédagogie différenciée ou apprendre autrement à des gens. Moi, j'ai travaillé avec des élèves en très grande difficulté scolaire et qui la notion de parallèle, la notion de verticalité, la notion d'horizontalité ne l'ont compris qu'en voyant une partition. Voilà, je ferme la parenthèse. Il y a un deuxième concept, effectivement, très très important. C'est pareil, la notion de tâtonnement expérimental. Alors là, effectivement, un petit peu comme cette histoire de jeu-travail, on est dans deux phrases, deux mots qui pourraient être antinomiques. Tâtonnement, on a l'impression que c'est l'errance, l'incertitude... le flou, l'hésitation, expérimental, on a l'impression de quelque chose de très élaboré, très compliqué, extrêmement maîtrisé, et on les met, on peut presque parler d'un oxymore. Pas du tout. D'abord, si on s'intéresse un peu, moi j'ai vu des esquisses de compositeurs, notamment celle de Beethoven, son 14e quatuor à cordes. C'est déjà une œuvre absolument phénoménale, mais alors les esquisses, c'est terrifiant. Quand on voit le tâtonnement expérimental qu'il lui a fallu pour arriver à cette construction. Et toutes les esquisses des écrivains sont du tâtonnement expérimental. Les cahiers de Proust, les esquisses de Flaubert, et les esquisses de Beethoven, c'est vraiment quelque chose. Donc, je ne vois pas en quoi ce serait péjoratif. Quand on voit une répétition d'orchestre, c'est tout de même assez confondant de voir comment ça peut annonner, hésiter, revenir en arrière, en sachant que ce qu'on voit en répétition avec le chef d'orchestre a été déjà pré-travaillé en pupitre avec le chef de pupitre. Et il y a toujours du tâtonnement, des approximations, des éclats de voix, parfois même des portes qui claquent, alors qu'on est chez des gens de très haut niveau. Voilà, il faut le savoir. Que quand un musicien crée une nouvelle partition, il tâtonne. Donc cette notion de tâtonnement expérimental n'est pas du tout l'apanage des gens inexpérimentés. Alors, tâtonnement, ça veut dire que il y a le fruit de l'expérience. Et c'était vraiment la pédagogie Freinet de découvrir par l'expérience comment irriguer un jardin, comment profiter des principes qui reviennent beaucoup en ce moment, de la chaleur au bon moment, mais aussi de la fraîcheur au bon moment, des choses simples. Donc déjà, il y a une expérience qui peut parfois être un échec. La réitération de cette expérience, quand elle a réussi, commence à créer une espèce de compétence qui permet ensuite de le modéliser. Et une fois qu'on a dominé un petit peu la question que l'on voulait aborder, on peut aller à des choses plus loin. C'est quelque chose, je dis souvent à mes élèves, il y a beaucoup d'équitation ici, au monde des barres des fois, il ne faut pas croire, c'est... C'est ça aussi que je voudrais dire, sans être plus œcuménique que de raison, c'est qu'on a parfois, dans ce discours, ce débat pédagogique en France, artificiellement créé des oppositions qui ne débouchent sur pas grand-chose. Dans le tâtonnement expérimental, il y a beaucoup de répétitions. On répète, ça marche, ça ne marche pas. Et les grands, détracteurs des pédagogies actives et des pédagogies Freinet et Montessori disent « Mais non, il faut répéter, il n'y a que ça de vrai. » Mais de toute façon, c'est inscrit dans la méthode Freinet. C'est inscrit dans la démarche de Freinet. Il y a une démarche très laborieuse chez Freinet. C'est quelque chose, et qu'on retrouve à la guitare, et qu'on retrouve en musique, c'est absolument pas, et c'est vraiment quelque chose qui me hérisse, une démarche entre guillemets laxiste. Pour ceux qui connaissent les métiers de l'imprimerie, eh ben, je peux vous dire que c'est extrêmement laborieux, que la méthode Freinet, le travail est au centre du jeu-travail. Donc c'est vrai que la répétition, simplement en musique, c'est vrai, il faut le reconnaître, la répétition n'est jamais répétitive. Que ce soit une reprise dans un morceau, on lui donne un climat différent. Donc c'est vrai qu'on n'a pas peur de répéter en musique, parce que c'est vraiment quelque chose de répétitif. Dans ce tâtonnement expérimental, il y a aussi le don de l'observation. L'observation et de l'écoute. Alors on arrive effectivement à des aberrations, c'est-à-dire des jeunes musiciens qui, avant de commencer une pièce, vont écouter les 50 versions de référence. Bon, ça va, non, il ne faut pas... Il ne faut pas être ni dans le suivisme, ni dans l'imitation bête et méchante. Mais quand même, le sens de l'observation, moi j'organise un festival de musique, j'ai été très intéressé d'observer certaines choses. Il y a une observation qui fait partie presque des sciences naturelles, qui fait partie d'un travail pédagogique d'un professeur des écoles tout à fait lambda. Et ce sens de l'observation est l'une des bases de la méthode Freinet, mais aussi d'un développement musical. Alors ça peut être ensuite une simple imitation, un mimétisme, mais c'est le point de départ de quelque chose. Et après, l'enfant construit sa propre expérience et trouve sa voie. Moi, ce qui m'intéresse aussi dans la méthode Freinet, c'est aussi le côté un peu, entre guillemets, collaboratif.
La coopérative, travailler ensemble.
Coopératif. Il ne l'a pas inventé. Il y a deux cas de figure quand on a un groupe de trois élèves. Soit c'est trois élèves qui ont le même niveau, et de toute façon, les trois n'auront pas les mêmes qualités et les mêmes défauts. Donc de toute façon, ça se complète. Parfois, d'être simplement le spectateur de quelqu'un qui agit peut permettre, ça c'est la musique de chambre, peut permettre de soi-même de se mettre à distance d'une difficulté qu'on peut avoir. Pour aussi, effectivement, un aspect de la pédagogie Freinet, c'est le côté socialisation des enfants. Et si on rejoint les propos de M. Piaget sur la décentration copernicienne qui arrive à 7, 8, 9, 10 ans, et aussi à l'adolescence, quand il y a d'autres troubles qui apparaissent, d'autres traits de caractère, la musique, ça peut être parfois complètement solitaire, mais aussi un travail collaboratif, coopératif, un travail de socialisation extrêmement salubre dans le développement de l'enfant, parce qu'on parle bien du développement de l'enfant, et contrairement à ce qu'on raconte, que les pédagogies actives sont le laisser faire, le laisser aller, au contraire, le travail coopératif, collaboratif, permet de fixer des règles et de dire en quelles règles on travaille, parce que le respect de l'autre est la première des règles. Donc ça, c'est aussi, je plaide pour ma chapelle, de l'impact formidable d'une pratique musicale scolaire, malheureusement, qui devient peau de chagrin, autour pour le développement de l'enfant. Je suis guitariste classique. J'aurais pu former mes élèves qu'à la guitare classique. Mais je sais qu'arrivé à l'adolescence, vont arriver une foule d'informations de hard rock, de ceci, de cela, et trop de guitaristes classiques ont été absolument démoralisés après avoir travaillé des années, voyant des gens qui faisaient trois plans de hard rock et qui en avaient l'impression que c'était la terre qui s'arrêtait. Je prépare mes élèves à l'adolescence pour leur permettre de pouvoir répondre à toutes les sollicitations guitaristiques qui leur seront faites. Je ne peux pas le faire quand ils ont 8 ans, mais je peux le faire quand ils en ont 15. Et je crois, ce sera ma conclusion, qu'une pédagogie active doit non pas s'adapter à la société, mais préparer à ce que la société le réserve en bien et en moins bien, mais aussi être capable de s'épanouir en tant qu'individu. Voilà.
Merci Yves Elias. Cette émission, que vous pouvez télécharger sur le site de Radio Sainte-Afrique, sera rediffusée mercredi 25 octobre à 14h et samedi 28 octobre à 16h. Vous trouverez aussi sur le site de la radio des liens qui vous permettront de trouver comment contacter Yves Elias, de connaître aussi les dates de ses futures conférences qu'il continue à donner ici ou ailleurs sur les apports de la musique dans les apprentissages scolaires et plus particulièrement sur sa relecture de la pédagogie coopérative, dite pédagogie freinée, par l'étude de la guitare. Merci pour votre écoute. Au mois prochain.
Salut et fraternité.
Il y aurait tant de choses à dire. Il y aurait tant de choses à faire que je ne sais plus quoi te dire, que je ne sais plus quoi te faire. Le délire dans le délire, c'est d'attenter à sa vie. C'est de quitter le navire en plein intempérie. Pire, je m'attends au pire, peu ou prou, nos sorts se nouent. Leave. je eus ce jour. Bonne table nous accueille à satiété. Soirée leste, soirée fruste de volupté. Mon désir dévie vers toi seul me va. Je m'arrange de ton linceul, de ton barda. Pire, je m'attends au pire, peu ou prou, nos sorts se j'aurais pu me le prédire, cette lente catastrophe. On ne devrait jamais dire sans faire de strophe. Quand s'étiole le poème, quand on en arrive aux mains, qu'on s'y donne, s'y abandonne jusqu'à demain. Pire, je m'attends au pire.